France Inter. Les admirations littéraires de
Ariane Ascaride. Alors, je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu les auteurs qui m'accompagnent, et particulièrement, il y a un auteur qui m'accompagne, qui est très connu de tout le monde, parce qu'on le fait à l'école, et que des fois, on en a un peu ras-le-bol de le faire à l'école. Il s'appelle Balzac, Honoré de Balzac. Et c'est un auteur que j'adore, parce qu'effectivement, il a écrit une œuvre qui s'appelle La Comédie humaine. C'est quelqu'un qui a une capacité de raconter, de décrire les lieux, les endroits, les temps même. Par exemple, dans ce livre dont je vais lire des extraits qui s'appelle La femme de 30 ans, il y a beaucoup de descriptions. En fait, si on prend la description telle qu'elle est écrite par Balzac et qu'on prend une caméra et qu'on fait exactement ce qu'a écrit Balzac, c'est un storyboard, il n'y a plus rien à faire. On filme et tout est là. Et c'est assez rare, ça. Je me dis que Balzac a peut-être inventé le cinéma. Donc, La femme de 30 ans, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va découvrir ce que c'est d'être une femme mariée et qui va découvrir ce que c'est que d'être une femme au début du 19e siècle. Et là, particulièrement, c'est une description. Et j'avais vraiment envie que vous entendiez ça parce que je trouve que c'est merveilleux. Dans les premiers jours du mois de mars 1814, un peu moins d'un an après cette revue de l'empereur, une calèche roulait sur la route d'Amboise à Tours. En quittant le dôme vert des noyers sous lesquels se cachait la poste de la Frilière, cette voiture fut entraînée avec une telle rapidité qu'en un moment, elle arriva au pont bâti sur la Cise, à l'embouchure de cette rivière, dans la Loire, et s'y arrêta. Un trait venait de se briser par suite du mouvement impétueux que, sur l'ordre de son maître, un jeune postillon avait imprimé à quatre de ses plus vigoureux chevaux d'Urlais. Ainsi, par un effet du hasard, les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. À sa droite, le voyageur embrasse d'un regard toutes les sinuosités de la Cise qui se roule comme un serpent argenté dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l'émeraude. À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques roulées produites par une brise matinale un peu froide réfléchissaient les scintillements du soleil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Çà et là, des îles verdoyantes se succèdent dans l'étendue des eaux comme les chatons d'un collier. Et de l'autre côté du fleuve, les plus belles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes que les collines du Cher, dont les cimes dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel. À travers le tendre feuillage des îles, au fond du tableau, Tours semble comme Venise, sortir du sein des eaux. Les campanules de sa vieille cathédrale s'élancent dans les airs où ils se confondent alors avec les créations fantastiques de quelques nuages blanchâtres. Et au-delà du pont sur lequel la voiture était arrêtée, le voyageur aperçoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qui, par une fantaisie de la nature, paraît avoir posé pour encaisser le fleuve dont les flots miment incessamment la pierre spectacle qui fait toujours l'étonnement du voyageur. Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges et les éboulements de ces roches qui commencent à décrire un coude devant le pont de la Cise. Puis de Vouvray jusqu'à Tours, les effrayantes anfractuosités de cette colline déchirée sont habitées par une population de vignerons. En plus d'un endroit, il existe trois étages de maisons creusées dans le roc et réunie par de dangereux escaliers taillés à même la pierre. Et au sommet d'un toit, une jeune fille, en jupon rouge, court à son jardin. La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments et le pampre naissant d'une vigne. Des closiers labourent des champs perpendiculaires. Une vieille femme tranquille sur un quartier de roches éboulées tourne son rouet sous les fleurs d'un amandier et regarde passer les voyageurs à ses pieds en souriant de leur effroi. Elle ne s'inquiète plus des crevasses du sol que de la ruine pendante d'un vieux mur dont les assises ne sont plus retenues que par les tortueuses racines d'un manteau de lierre. Le marteau des tonneliers fait retentir les voûtes de caves aériennes. Enfin, la terre est cultivée partout et partout féconde. Là où la nature a refusé de la terre à l'industrie humaine. La senteur des saules qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au goût de la brise humide. Les oiseaux faisaient entendre leur prolixe concert. Le chant monotone d'un gardeur de chèvres y joignait une sorte de mélancolie, tandis que les cris des mariniers annonçaient une agitation lointaine. De molles vapeurs, capricieusement arrêtées autour des arbres épars dans ce vaste paysage, y imprimaient une dernière grâce. C'était la Touraine, dans toute sa gloire, le printemps, dans toute sa splendeur. Cette partie de la France, la seule que les armées étrangères ne devaient point troubler, était, en ce moment, la seule qui fut tranquille, et l'on eût dit qu'elle défiait l'invasion.
Poussière d'or dans le ciel bleu tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Égaré là, nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran les heures s'habillent, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment haut pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Ciel bleu tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu comme l'aube aux lacrymogènes. Le chemin semble sans fin. De quoi sera fait demain? Sinon de goudron à main, sinon des miroirs des âmes. Quel choix de garder la foi, quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.
Les admirations littéraires d'Ariane Ascaride
sur France Inter.
Et je vais vous lire un autre extrait de La femme de 30 ans de Balzac, de ce roman que j'aime, il faut bien le dire, particulièrement, parce que c'est quand même, très étonnant qu'un homme écrive au 19e siècle comme ça une condition féminine et qu'il soit vraiment du côté de la femme. C'est très impressionnant. J'enchaîne. Donc, dans cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Julie, qui est tombée amoureuse d'un fringant militaire au désespoir de son père. Et ce fringant militaire, pour être poli, est un véritable bourrin et va lui faire découvrir l'amour. C'est pas exactement dans l'extrait que je vais vous lire, mais si ça vous intéresse... Il y a une nuit de noces qui est assez impressionnante. Quand sa femme de chambre l'eut déshabillée et l'eut laissée prête à se coucher, elle resta devant le feu, plongée dans une duchesse de velours jaune, meuble antique, aussi favorable aux affligés qu'aux gens heureux. Elle pleura, elle soupira, elle pensa, puis elle prit une petite table, chercha du papier et se mit à écrire. Les heures passèrent rapidement, la confidence que Julie faisait dans cette lettre paraissait lui coûter beaucoup, chaque phrase amenait de longues rêveries. Et tout à coup, la jeune femme fondit en larmes et s'arrêta. En ce moment, les horloges sonnèrent 2 heures. Sa tête aussi lourde que celle d'une mourante s'inclina sur son sein, puis quand elle la releva, Julie vit sa tante surgir tout d'un coup comme un personnage qui se serait détaché de la tapisserie tendue sur les murs. « Qu'avez-vous donc, ma petite ?» lui dit sa tante. « Pourquoi veiller si tard ? Et surtout, pourquoi pleurer seule, à votre âge ?» Elle s'était assise sans autre cérémonie auprès de sa nièce et dévora des yeux la lettre commencée. « Vous écrivez à votre mari ? » ?»« Sais-je où il est ?» reprit la comtesse. La tante prit le papier et le lut. « Ma chère Louisa, pourquoi réclamer tant de fois l'accomplissement de la plus imprudente promesse que puissent se faire 2 jeunes filles ignorantes ? Tu te demandes souvent, m'écris-tu, pourquoi je n'ai pas répondu depuis 6 mois à tes interrogations. Si tu n'as pas compris mon silence aujourd'hui, tu en devineras peut-être la raison en apprenant les mystères que je vais trahir. Je les aurais à jamais ensevelis dans le fond de mon cœur si tu ne m'avertissais de ton prochain mariage. Tu vas te marier, Louisa. Cette pensée me fait frémir. Pauvre petite, marie-toi. Puis dans quelques mois, un de tes plus poignants regrets viendra du souvenir de ce que nous étions naguère quand un soir, à Écouen, parvenus toutes deux sous les plus grands chênes de la montagne, nous contemplâmes la belle vallée que nous avions à nos pieds et que nous y admirâmes les rayons du soleil couchant dont les reflets nous enveloppaient. Nous nous assîmes sur un quartier de roche et tombâmes dans un ravissement auquel succéda la plus douce mélancolie. Tu trouvas la première que ce soleil lointain nous parlait d'avenir. Nous étions bien curieuses et bien folles alors. Te souviens-tu de toutes nos extravagances ? Nous nous embrassâmes comme 2 amants, disions-nous. Nous nous jurâmes que la première mariée de nous deux raconterait fidèlement à l'autre ses secrets d'hyménée, ses joies que nos âmes enfantines nous peignaient si délicieuses. Cette soirée fera ton désespoir, Louisa. Dans ce temps, tu étais jeune, belle, insouciante, sinon heureuse. Un mari te rendra en peu de jours ce que je suis déjà, laide, souffrante et vieille. te dire combien j'étais fière et vaine et joyeuse d'épouser le colonel Victor d'Aiglemont, ce serait une folie. Lorsque mon mari entra, qu'il me chercha, le rire étouffé que je fis entendre sous les mousselines qui m'enveloppaient a été le dernier éclat de cette gaieté douce qui anima le jeu de notre enfance. Quand la douairière eut achevé de lire cette lettre qui, commençant ainsi, devait contenir de bien tristes observations, elle posa lentement ses lunettes sur la table, y remit aussi la lettre et arrêta sur sa nièce deux yeux verts dont le feu clair n'était pas encore affaibli par son âge. « Ma petite, dit-elle, une femme mariée ne saurait écrire ainsi à une jeune personne sans manquer aux convenances. » « C'est ce que je pensais, répondit Julie en interrompant sa tante, et j'avais honte de moi pendant que vous la lisiez. Si à table un mets ne nous semble pas bon, il n'en faut dégoûter personne, mon enfant, reprit la vieille avec bonhomie. Surtout lorsque, depuis Ève jusqu'à nous, le mariage a paru chose si excellente. » Elle regarda sa tante et un frisson de joie sécha ses larmes quand elle aperçut l'air de bonté qui animait cette vieille figure. Elle tendit sa jeune main à la comtesse qui semblait la solliciter, et quand leurs doigts se pressèrent, ces deux femmes achevèrent de se comprendre. « Vous avez les mains brûlantes, sont-elles toujours ainsi ?» demanda la vieille femme. « La fièvre ne m'a quittée que depuis 7 ou 8 jours, répondit-elle. Vous aviez la fièvre et vous ne me le cachiez. Je l'ai depuis 1 an, dit Julie avec une sorte d'anxiété pudique. « Ainsi, mon bon petit ange, reprit sa tante, le mariage n'a été jusqu'à présent pour vous qu'une longue douleur. » La jeune femme n'osa répondre, mais elle fit un geste affirmatif qui trahissait toutes ses souffrances. « Vous êtes donc malheureuse ?»« Ah non, ma tante, Victor m'aime à l'idolâtrie et je l'adore. Il est si bon. » »« Oui, vous l'aimez, mais vous le fuyez, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« Vous devinez donc tout, là où tout est énigme pour moi. Mes sens sont engourdis, je suis sans idée. Enfin, je vis difficilement. Mon âme est oppressée par une indéfinissable appréhension qui glace mes sentiments et je me jette dans une torpeur continuelle. Je suis sans voix pour me plaindre et sans parole pour exprimer ma peine. Je souffre et j'ai honte de souffrir en voyant Victor heureux de ce qui me tue. Enfantillage, niaiserie que tout cela, s'écria la tante dont le visage asséché s'anima tout à coup par un gai sourire, reflet des joies de son jeune âme. « Et vous aussi, vous riez, dit avec désespoir la jeune femme. « J'ai été ainsi, reprit promptement la comtesse. « Maintenant que Victor vous a laissé seul, n'êtes-vous pas redevenue jeune fille, tranquille, sans plaisir, mais sans souffrance ?» Julie ouvrit de grands yeux hébétés. « Enfin, mon ange, vous adorez Victor, n'est-ce pas ? Mais vous aimeriez mieux être sa sœur que sa femme. Et le mariage, enfin, ne vous réussit point ? Eh bien, oui, ma tante. J'aime beaucoup cette histoire-là. Et cette solitude dans laquelle est cette jeune mariée qui rencontre là une vieille dame qui a connu le plaisir, elle, et qui voit exactement de quoi il en retourne. Et donc voilà, c'était un deuxième extrait de La femme de 30 ans de Balzac. Et nous allons continuer cette traversée balzacienne par le cousin Ponce. Vous savez qu'il y a deux romans de Balzac, toujours à l'intérieur de cette comédie humaine, qui s'appellent Le cousin Ponce et La cousine bête. Le cousin Ponce, c'est un homme très très gentil et qui est un collectionneur et qui collectionne des tableaux, mais des tableaux, des Rubens, des tas de choses comme ça, mais vraiment des tableaux dont il ne mesure pas tout à fait le prix quand même. Et tout le monde est là comme des chiens affamés autour de lui parce qu'il va mourir à un moment donné. Et tout le monde est là haleté pour récupérer des tableaux. Enfin, il y a tout le temps des histoires. Vous savez, chez Balzac, il y a toujours des histoires d'argent. comme aujourd'hui d'ailleurs au demeurant. Et le cousin Ponce, il s'est fait un ami qui est allemand, qui l'a nommé son légataire universel, qui s'appelle Schmuck. Et donc le cousin Ponce est mort, et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes mort et qu'on doit vous enterrer? Donc, c'est un extrait du chapitre qui s'appelle « Où l'on voit qu'il n'y a que les morts qu'on ne tourmente pas ». Personne, à l'exception de quelques philosophes ou de quelques familles sûres de vivre qui se font construire des tombes comme elles ont des hôtels, personne ne pense à la mort et à ses conséquences sociales. La mort vient toujours trop tôt. Et d'ailleurs, un sentiment bien entendu empêche les héritiers de la supposer possible. Aussi, presque tous ceux qui perdent leur père, leur mère, leur femme ou leurs enfants sont-ils immédiatement assaillis par ces coureurs d'affaires qui profitent du trouble ou jettent la douleur pour surprendre une commande. Autrefois, les entrepreneurs de monuments funéraires, tous regroupés aux environs du célèbre cimetière du Père Lachaise, où ils forment une rue qu'on devrait appeler rue des tombeaux, asseyaient les héritiers aux environs de la tombe ou au sortir du cimetière. Mais, insensiblement, la concurrence, le génie de la spéculation, les a fait gagner du terrain et ils sont descendus aujourd'hui dans la ville jusqu'aux abords des mairies. Enfin, les courtiers pénètrent souvent dans la maison mortuaire, un plan de tombe à la main. « Je suis en affaire avec monsieur, » dit le courtier de la maison sonnée au courtier qui se présentait. « Décès Ponce, où sont les témoins ?» dit le garçon du bureau. « Venez, monsieur, » dit le courtier, en s'adressant à Romoninque. Romoninque pria le portier de soulever Schmuck, qui restait sur son banc comme une masse inerte. Ils le menèrent à la balustrade derrière laquelle le rédacteur des actes de décès s'abrite contre les douleurs publiques. Et Romoninque, la providence de Schmuck, fut aidé par le docteur Poulain qui vint donner les renseignements nécessaires sur l'âge et le lieu de naissance de Ponce. L'Allemand ne savait qu'une seule chose, c'est que Ponce était son ami. Une fois les signatures données, Romoninque et le docteur, suivis du courtier, mirent le pauvre Allemand en voiture dans laquelle se glissa l'enragé courtier qui voulait avoir une solution sur sa commande. La sauvage, en observation sur le pas de la porte cochère, monta Schmuck, presque évanoui dans ses bras, aidé par Romoninque et par le courtier de la maison sonnée. « Il va se trouver mal !» s'écria le courtier, qui voulait terminer l'affaire, qu'il disait commencer. « Je le crois bien !» répondit Madame Sauvage. « Il pleure depuis 24 heures, il n'a rien voulu reprendre. Rien ne creuse l'estomac comme le chagrin !»« Mais mon cher client, » lui dit le courtier de la maison sonnée, « prenez donc un bouillon, vous avez tant de choses à faire. Il faut aller à l'hôtel de ville, acheter le terrain nécessaire pour le monument que vous voulez élever à la mémoire de cet ami des arts et qui doit témoigner de votre reconnaissance. Mais cela n'a pas de bon sens, » dit Madame Cantinet à Schmuck, en arrivant avec un bouillon et du pain. « Songez, mon cher monsieur, si vous êtes si faible que cela, » reprit Romoninque, « songez à vous faire représenter par quelqu'un, car vous avez bien des affaires sur les bras. Il faut commander le convoi, vous voulez pas qu'on enterre votre ami comme un pauvre. Allons, allons, mon cher monsieur, » dit la sauvage, en saisissant un moment où Schmuck, avec la tête inclinée, sur le dos du fauteuil. Et elle entonna dans la bouche de Schmuck une cuillère de potage et lui donna presque malgré lui à manger comme à un enfant. « Maintenant, si vous étiez sage, monsieur, puisque vous voulez vous livrer tranquillement à votre douleur, vous prendriez quelqu'un pour vous représenter, puisque, monsieur, dit le courtier, a l'intention d'élever un magnifique monument à la mémoire de son ami. Il n'a qu'à me charger de toutes les démarches, je le ferai. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dit la sauvage. Monsieur vous a commandé quelque chose? Qui donc êtes-vous? L'un des courtiers de la maison sonnée, ma chère madame. Et les plus forts entrepreneurs de monuments funéraires, dit-il en tirant une carte et la présentant à la puissante sauvage. Eh bien, c'est bon, on ira chez vous quand on le jugera convenable. Mais il ne faut pas abuser de l'état dans lequel se trouve monsieur. Vous voyez bien que monsieur n'a pas sa tête. Et si vous voulez vous arranger pour nous faire avoir la commande, dit le courtier de la maison sonnée à l'oreille de madame sauvage, en la menant sur le palier, j'ai pouvoir de vous offrir 40 francs. Ah, bien. Donnez-moi votre adresse, dit madame sauvage en s'humanisant.
On the ground, I can't see what's around me, but soon I'll.
Admiration littéraire, Darian Ascaride. Sur France Inter.
Pour terminer, donc, je vous ai parlé du cousin Ponce et je vais vous parler de la cousine Bette. Et alors là, c'est le début du roman que je vais vous lire. Tout de suite, on plonge dans une réalité assez épouvantable qui sont des histoires de dot, des histoires d'argent, des histoires de bourgeois qui veulent devenir aristocrates. Et c'est absolument terrible. C'est étonnant comme pour moi, ça a des résonances. Écoutez, monsieur Crevel, reprit la baronne, trop sérieuse pour pouvoir rire. Vous avez 50 ans. C'est 10 ans de moins que monsieur Hulot, je le sais. Mais à mon âge, les folies d'une femme doivent être justifiées par la beauté, par la jeunesse, par la célébrité, par le mérite, par quelques-unes des splendeurs qui nous éblouissent au point de nous faire tout oublier, même notre âge. Si vous avez 50 000 livres de rente, votre âge contrebalance bien votre fortune, ainsi de tout ce qu'une femme exige, vous ne possédez rien. Et l'amour, dit le garde national en se levant, en s'avançant, un amour qui... Oh non, monsieur, de l'entêtement, dit la baronne en l'interrompant pour en finir avec cette ridiculité. Oui, de l'entêtement et de l'amour, reprit-il, mais aussi quelque chose de mieux. Des droits ! Des droits ? S'écria Madame Hulot, qui devint sublime de mépris, de défi et d'indignation. Mais, reprit-elle, sur ce ton, nous n'en finirons jamais. Et je ne vous ai pas demandé de venir ici pour causer de ce qui vous en a fait bannir, malgré l'alliance de nos deux familles. Je l'ai cru. Encore, reprit-elle, ne voyez-vous pas, monsieur, à la manière leste et dégagée dont je parle d'amour, de tout ce qu'il y a de plus scabreux pour une femme, que je suis parfaitement sûre de rester vertueuse. Non, madame, répliqua Crevel en prenant un air froid. Il se pinça les lèvres et se remit en position. Eh bien, je serai brève. pour abréger notre mutuel supplice, dit la baronne en regardant Crevel. Notre fils a épousé votre fille. Si c'était à refaire, dit Crevel. Ce mariage ne se ferait pas, répondit vivement la baronne. Je m'en doute. Néanmoins, vous n'avez pas à vous plaindre. Mon fils est non seulement un des premiers avocats de Paris, mais encore le voici député depuis un an, et son début à la Chambre est assez éclatant pour faire supposer qu'avant peu de temps, il sera ministre. Un gendre que je suis obligée de soutenir, reprit Crevel, ce qui me semble pis, madame. Des 500 000 francs constitués en dot à ma fille, 200 ont passé, Dieu sait à quoi, à payer les dettes de monsieur votre fils. Cette année, je donne à ma fille une vingtaine de mille francs pour qu'elle puisse nouer les deux bouts. Et mon gendre, qui gagnait 30 000 francs au palais, disait-on, va négliger le palais pour la chambre. Ceci, monsieur Crevel, est encore un hors-d'œuvre et nous éloigne du sujet. Mais pour en finir là-dessus, si mon fils devient ministre, s'il vous fait nommer officier de la Légion d'honneur et conseiller de préfecture à Paris pour un ancien parfumeur, vous n'aurez pas à vous plaindre. Ah, nous y voici, madame. Je suis un épicier, un boutiquier, un ancien débitant de pâtes d'amande, d'eau de Portugal, d'huile céphalique. On doit me trouver bien honoré d'avoir marié ma fille unique au fils de monsieur le baron Hulot d'Hervy. Ma fille sera baronne. C'est régence, c'est Louis XV. Œil de bœuf, c'est très bien. J'aime Célestine comme on aime une fille unique. Je l'aime tant que pour ne lui donner ni frère ni sœur, j'ai accepté tous les inconvénients du veuvage à Paris. Et dans la force de l'âge, madame. Mais sachez bien que malgré cet amour insensé pour ma fille, je n'entamerai pas ma fortune pour votre fils dont les dépenses ne me paraissent pas claires à moi, ancien négociant. Monsieur, vous voyez en ce moment même au ministère du Commerce, monsieur Popineau, un ancien droguiste de la rue des Lombards. Mon ami, madame, dit le parfumeur retiré. Car moi, Célestin Crevel, ancien premier commis du père César Birotteau, j'ai acheté le fonds du dit Birotteau, beau-père de Popineau, lequel Popineau était simple commis dans cet établissement, et c'est lui qui me le rappelle, car il n'est pas fier, c'est une justice à lui rendre, avec les gens bien posés, et qui possède 60 000 francs de rente. Eh bien, monsieur, les idées que vous qualifiez par le mot régence ne sont donc plus de mise à une époque où l'on accepte les hommes pour leur valeur personnelle. Et c'est ce que vous avez fait en mariant votre fille à mon fils. Vous ne savez pas comment s'est conclu ce mariage, s'écria Crevel. Ah, maudite vie de garçon! Sans mes déportements, ma Célestine serait aujourd'hui la vicomtesse Popineau. Mais, encore une fois, ne récriminons pas sur des faits accomplis, reprit énergiquement la baronne. Parlons du sujet de plainte que me donne votre étrange conduite. Ma fille Hortense a pu se marier. Le mariage dépendait entièrement de vous. J'ai cru à des sentiments généreux chez vous. J'ai pensé que vous auriez rendu justice à une femme qui n'a jamais eu dans le cœur d'autre image que celle de son mari, que vous auriez reconnu la nécessité pour elle de ne pas recevoir un homme empressé par honneur pour la famille à laquelle vous êtes alliée, de favoriser l'établissement d'Hortense avec monsieur le conseiller Lebas et vous, monsieur. Vous avez fait manquer ce mariage. Madame, répondit l'ancien parfumeur, j'ai agi en honnête homme. On est venu me demander si les 200 000 francs de dot attribués à mademoiselle Hortense seraient payés. J'ai répondu textuellement ceci. Je ne le garantirai pas. Mon gendre, à qui la famille Hulot a constitué cette somme en dot, avait des dettes. Et je crois que si monsieur Hulot d'Hervy mourait demain, sa veuve serait sans pain. Voilà, belle dame. Et auriez-vous tenu ce langage, monsieur, demanda madame Hulot en regardant fixement Crevel, si pour vous j'eusse manqué à mes devoirs? Je n'aurais pas eu le droit de le dire, chère Adeline, s'écria-se singulièrement en coupant la parole à la baronne, car vous trouveriez la dot dans mon portefeuille. Et joignant la preuve à la parole, le gros Crevel mit un genou à terre et baisa la main de madame Hulot en la voyant plonger par ses paroles dans une muette horreur qu'il prit pour de l'hésitation. Acheter le bonheur de ma fille au prix de... Levez-vous, monsieur, ou je sonne. Voilà, j'espère vous avoir fait partager mon amour, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mon amour littéraire pour Balzac, qui je pense est véritablement un des plus grands auteurs français.
Cette émission a été préparée par Perrine Malinge.
La prise de son a été effectuée par Florian Dittre. C'est Clément Berman qui s'est chargé du mixage de cette émission.
Elle a été réalisée par Stéphane Ronxin.
Et la semaine prochaine, je vous lirai Joyce Carol Oates.